Bon, je vais vous présenter un couple très sympathique, Alex et Maud, que j'ai entendu ce matin. Donc je vous invite à bien les écouter, à être attentif à ce qu'ils disent, parce qu'ils n'ont peur d'aucun mot. On parle de tous les mots, amour, sexe et Dieu, et le sexe n'est pas ignoré. Voilà, donc ça fait partie de la vie intégrale de chacun. Et donc ce couple n'a pas de scrupules de parler de ces choses-là. Donc je vous les confie. Et faites-leur un bon accueil. À vous.
Bon, alors, Alex et Maud, je vais me présenter rapidement. On vient ici pour partager avec vous, en particulier pour les jeunes, même s'ils ne sont pas toujours nombreux dans l'assistance. La question de l'amour, le sexe, Dieu, comment est-ce qu'on peut mettre tout ça ensemble? Et qu'est-ce que le Seigneur a à nous apprendre sur la sexualité? Quand on était jeune, je me souviens que mes grands-parents nous disaient souvent Dieu s'arrête à la porte de la chambre. On a compris depuis longtemps que ce n'était pas le cas et que s'il y a bien un lieu où Dieu était présent, c'était bien dans la sexualité. Donc on a choisi cet après-midi de partager sur ce sujet-là, sur le sujet « Quelle joie pour nous avec nos corps et nos cœurs ? » Qu'est-ce que Dieu veut pour nous ? Quel est le projet d'amour qu'il a ? Et comment exulter de joie, puisque tel est le projet de Dieu pour notre vie, dans notre amour, dans notre mariage ? Dans toutes les dimensions de notre être. Donc on est mariés depuis 27 ans, on a 5 enfants, entre 18 et 26 ans. C'est facile, cette année c'est les années paires, donc 18, 20, 22, 24, 26, puis l'année prochaine on va rentrer dans les années impaires, comme ça on ne se trompe pas. Voilà. L'aîné est marié à 2 petits-enfants, et les autres sont répartis entre l'Ukraine, les États-Unis, l'Italie et la France. Ils sont tous étudiants, donc grâce à ça, on a un peu plus de liberté pour venir témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Alors tout ce qu'on va vous partager, bien sûr, c'est des choses qu'on a d'abord vécues nous-mêmes et qu'on a expérimentées. Comme vous découvrirez au cours de ces quelques minutes qu'on va partager avec vous, nous avons des toutes petites personnalités. Donc quand on en met en deux ensemble, il faut que soit que le Seigneur intervienne, soit ça se termine très mal. Donc il n'y a pas tellement le choix. Donc ce qu'on va vous dire, c'est d'abord quelque chose qu'on a traversé nous-mêmes, qu'on a vécu nous-mêmes, et qui nous a vraiment rendu donner, et qui continue à nous donner, la vraie joie. Puisque le thème d'aujourd'hui, c'est cela. Le projet de tout homme, c'est le bonheur, et la joie est évidemment associée au bonheur.
Il nous a paru important, dans le cadre de cette intervention, de pouvoir apporter un témoignage, et notamment un témoignage par rapport parce que le propos s'adresse d'abord aux jeunes, de véritablement rendre compte de moi, de une expérience qui a été très forte par rapport à cette thématique, ce thème de l'amour, de la sexualité et de la vie spirituelle et de Dieu. Nous avons tous dans l'image et dans la tête des images d'Épinal où effectivement, comme l'a dit un peu Maud, Dieu s'arrête à la porte de la chambre, et non seulement ça, mais l'Église est purement incompétente et même est quasiment un contre-témoignage par rapport aux questions de la sexualité, du plaisir. Et c'est en tout cas une image qui est véhiculée énormément par les médias. L'Église est l'institution de l'interdit, de l'anti-plaisir. Et donc il y a beaucoup d'images, je dirais, spontanées qui sont véhiculées dans la société. Que ces deux domaines, le domaine de la vie spirituelle, le domaine de la sexualité, sont des domaines qui sont complètement non seulement étanches, mais même opposés. C'est ce qui est véhiculé. Moi, en tout cas, c'était aussi mon sentiment. En tant que jeune adolescent de 14-15 ans, éduqué dans une famille chrétienne, Jésus c'était très bien, mais l'Église c'était pas très intéressant. Et quand on a 14-15 ans, on est surtout préoccupé par son nombril, par sa vie amoureuse et par les sentiments qui nous picotent le cœur, le corps et tout ce que vous voulez. Et donc effectivement, j'étais pas du tout un tombeur de filles, c'était pas vraiment mon genre. J'étais plutôt un grand romantique. Et à partir de 15 ans, j'étais tout le temps amoureux. C'était un peu mon problème d'ailleurs, parce que j'étais aussi amoureux de plusieurs filles à la fois, donc parfois ça me posait un petit peu des problèmes. Et donc ça a été, à ce moment-là, j'ai arrêté toute vie spirituelle et pratique religieuse et pratique chrétienne. Et donc j'étais beaucoup, beaucoup plus préoccupé donc, par ces relations amoureuses. Mais à chaque fois, au bout de 15 jours, 3 semaines avec une fille, ça allait pas. Mais la prochaine, ça va être sûrement la bonne. Comme ça, j'ai eu comme ça 20 femmes de ma vie qui, chaque fois, ont duré 15 jours ou 3 semaines ou 2 mois. Et puis, comme ça, et chaque fois, on me disait, mais en fait, j'ai peut-être pas été assez loin. avec un tel ou avec une telle ou une telle. Et donc, mais chaque fois, je croyais que la prochaine était la bonne. Ça a été la femme de ma vie, etc. Et finalement, je me rendais compte que j'étais complètement leurré par mes sentiments. Et que les sentiments que je pouvais avoir, qui étaient a priori authentiques, vrais, finalement, dans l'expérience amoureuse et dans l'expérience de la tendresse qui pouvait être exprimée avec ces jeunes filles, chaque fois de plus en plus loin, et ben, ça ne comblait pas mon cœur. Et donc, je pense qu'à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, on cherche l'amour, et je cherchais intensément l'amour, d'autant plus, donc, comme j'ai dit, que j'avais cet état d'esprit plutôt romantique. Et puis, à 20 ans, j'étais avec encore une fille, d'ailleurs très, très sympa, j'ai aucun reproche à lui faire, mais effectivement, j'étais à me poser beaucoup de questions. Et puis, j'étais faire un stage théâtre, parce que j'étais très impliqué dans les colonies de vacances, etc. Enfin, bon, bref. Et puis, j'ai découvert une communauté chrétienne. J'ai découvert à ce moment-là qu'ils priaient tôt le matin, tard le soir. Et puis, 3 jours après, dans le cadre de ce stage théâtre, je ne suis pas tombé comme saint Paul de mon cheval sur la route de Damas, mais je suis tombé d'une scène de théâtre. Ça veut dire lors d'une improvisation, un exercice de théâtre qui m'était proposé, l'expérience sur la souffrance, il fallait exprimer la souffrance. Cet exercice a dépassé largement le cadre qui était donné. Et vraiment, j'ai été, lors de cet exercice, complètement traversé de part en part, par l'amour du Seigneur et par l'Esprit Saint. Donc je me suis trouvé en bas de la scène de théâtre, je ne sais pas trop comment. Et donc, heureusement, l'animatrice de l'exercice a arrêté l'exercice en disant « Mais écoute, on reprendra demain et tout ça. Alex a l'air de vivre des choses importantes. » Et j'ai su à ce moment-là, ça a duré toute la nuit, j'ai su que je vivais là la période, le moment le plus important de ma vie. Ceux qui étaient là ce matin, lors de notre intervention, nous avons parlé de la rencontre de Jésus avec Nicodème, qui lui dit comment naître de nouveau. Et bien là, ce jour-là, c'était vraiment une deuxième naissance. C'était ma deuxième naissance. Et 30 ans après, c'était le 5 août 79, à 10h30 du soir. Donc 31 ans après, je sais que c'était le jour le plus important de ma vie. C'était cette nuit-là. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Il s'est passé que l'amour que je recherchais, au travers de cette tendresse, au travers de ces relations amoureuses, au travers d'une sexualité qui était de plus en plus en éveil, et qui était, je dirais, expérimentale, je me suis rendu compte que tout ce que je cherchais comme tendresse, l'amour que je cherchais, eh ben je le rencontrais en Jésus. J'ai su cette nuit-là que l'amour que je cherchais depuis le début que j'étais tout petit, c'était la rencontre de Jésus. Et que finalement, au travers de notre recherche de tendresse, je me rendais compte que je ne pourrais combler mon besoin d'amour que dans l'expérience et de la rencontre avec Jésus-Christ. Et durant cette nuit, où je n'ai pas dormi de toute la nuit, j'ai effectivement revisité le catéchisme qui m'avait été donné et tout ce que j'avais rejeté sur Jésus, fils de Dieu, Jésus a donné de sa vie pour toi, Dieu est l'amour, etc., etc. Ce n'était plus une doctrine, un catéchisme froid, c'était quelque chose que j'accueillais comme la vérité centrale de ma vie. Et j'ai su à ce moment-là que tout ce que je recherchais dans l'amour, tout ce que je recherchais et que j'allais rechercher demain dans toute relation avec des hommes, avec des femmes et peut-être avec la femme de ma vie, ça allait être Dieu que j'allais rechercher. Et tout le travail finalement que j'ai fait après, que nous avons fait ensemble, au travers de la théologie, au travers de la révélation, etc., etc., tout le travail de lecture, ce n'aurait été finalement qu'une explicitation pour moi de ce que j'ai vécu cette nuit-là. C'est-à-dire que ça a finalement été un éclairage supplémentaire de cette expérience de cette nuit-là, où finalement, et c'est peut-être un des messages central de ce qu'on a à vous témoigner et à partager cet après-midi, c'est qu'au travers de l'amour, au travers de la sexualité, finalement, nous ne recherchons tous qu'une seule personne, qu'un seul être, c'est Dieu qui est inscrit au cœur de nous. On va dire, attends, quel est le rapport avec la sexualité, on va y venir. Mais finalement, nous sommes tous à l'image de Dieu, que ce soit au niveau de la personne, que ce soit au niveau du couple, au niveau de la relation, et que nous sommes entre guillemets programmés, nous sommes faits pour cela, nous sommes comme on est programmés avec une seule tête et pas deux têtes, et deux bras et non pas quatre bras, et bien nous sommes également faits pour Dieu, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Et donc nous sommes appelés à participer à la vie de Dieu. Et que finalement, nous disons souvent avec Maud que une des plus grandes preuves de Dieu dans ce monde, c'est de voir tout l'érotisme qui s'affiche à longueur de magazines, de télé, de radio, et qui s'affiche de plus en plus. Bien sûr, c'est une recherche d'amour qui est déviée, on va le voir. Mais ça montre combien, plus le monde rejette Dieu, plus il est avide d'amour, il est assoiffé d'amour. Et un monde qui rejette Dieu, c'est comme un poisson, vous allez sortir de l'eau. Ou alors comme un homme, ou chacun de vous, qu'on prend et qu'on met au fond de l'eau et qu'on laisse au fond de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait ? On a de cesse que de ressortir pour pouvoir respirer. Et que finalement, tout homme, toute femme aujourd'hui, quand il est retiré de cette relation avec Dieu, cette intimité avec Dieu, je ne parle pas de l'aspect de la pratique religieuse, bien sûr que c'est important, mais c'est une conséquence. Si nous ne sommes pas dans cette intimité avec Jésus, dans cette intimité avec Dieu, nous sommes avides d'amour. Et comme nous sommes avides d'amour, nous allons essayer de trouver des rustines. Et nous allons trouver des rustines qui vont être dévoyées, qui vont être toutes les formes, je dirais, de pornographie ou d'érotisme, etc., etc. Mais aussi, ça va pouvoir être dévié, mais ce n'est pas tellement le sujet, dans des recherches de pouvoir ou dans des recherches d'argent, qui n'est qu'une seule chose. C'est quoi le pouvoir ? C'est quoi l'argent ? C'est dire, hey, je suis bien, dis-moi que je suis bien. Dis-moi que je suis aimable, comme j'ai du pouvoir. Je suis admiré, donc je suis bien. Quand j'ai de l'argent, je peux me payer des choses, donc je peux te payer aussi des choses. Hein. Ça veut dire que je suis bien, je suis aimable. C'est un côté pitoyable. L'aspect de l'érotisme ou de la pornographie est complètement une déviation de l'amour. Comme j'ai pas plus, au moins j'ai au moins ça. Et c'est pareil pour l'argent, et c'est pareil pour le pouvoir, et vous avez les trois moteurs du monde, dans le sens du monde qui rejette Dieu. Tout ça, c'est quoi ? C'est simplement que nous sommes avides d'amour de manière maladive, et que si jamais nous nous détournons de ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire l'amour et l'intimité avec Dieu, et bien nous passons notre temps à ça. Reprenez bien ces clés de lecture de notre monde. Vous allez voir que vous avez une explication de beaucoup de choses qui se passent dans le monde.
Alors, je vais compléter, parce que moi, j'ai un témoignage qui est beaucoup plus chic, comme on dit. Alex, c'est le témoignage choc. Moi, j'ai le témoignage chic. Donc, j'ai une vie de foi toute petite et qui s'est construite pas à pas. Donc, je n'ai pas eu de rencontre bouleversante un matin avec Jésus. Ça s'est fait dans l'intimité de mon cœur et dans une intensité qui est allée croissante. Ce que j'ai compris assez vite, c'est que je voulais vivre un vrai amour, un grand amour. Parce qu'en fait, on a le cœur qui est fait pour une immensité d'amour. On n'a pas le cœur qui est fait pour un amour de pacotille. Et ça, je l'ai compris vite. Et je me suis dit que je voulais vivre une vraie aventure. Et la vraie aventure, c'est de suivre le Seigneur, parce que qui mieux que lui sait quel est mon bonheur ? Donc j'avais une entière confiance en Dieu. Et j'avais décidé de rester vraie avec moi-même et de ne jamais poser un geste d'amour qui ne soit pas un geste vrai. Et j'ai découvert par là, je pense, une des bases de l'anthropologie chrétienne, ce qu'on appelle l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire comment est-ce que l'homme et la femme, comment est-ce que l'humanité a été faite. Et je pense que c'est important de revenir là-dessus. Au départ, Dieu nous a créé un seul être, avec une unité complète entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que Adam et Ève, à la Genèse, étaient innocents. Innocents, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas nuire, ils ne pouvaient pas faire de mal à l'autre, parce qu'il y avait une totale transparence entre le cœur et le corps. ce que disait mon corps était ce que vivait mon cœur. Et ce que vivait mon cœur s'exprimait dans mon corps. C'est ce que vous voyez avec des petits-enfants. Ils se jettent dans vos bras, on sait que c'est sincère. S'ils n'ont pas envie de venir vous voir, ils partent en courant. Il n'y a pas de dichotomie. Et plus on grandit, et plus on crée une différence entre l'extérieur et l'intérieur. Et quand on prend conscience de cette difficulté-là, on comprend qu'il y a là une blessure. En Genèse 3, ce qu'on appelle le péché, la chute, ça a provoqué en nous trois immenses blessures qui demeurent toujours en tout être. La première blessure, c'est la blessure avec nous-mêmes. C'est-à-dire que mon corps et mon âme ne sont plus assortis. Donc je vais pouvoir, par exemple, faire un grand sourire alors qu'à l'intérieur, je pense qu'elle est idiot celui-là. Je vais pouvoir poser un geste d'amour alors qu'à l'intérieur, j'en ai rien à faire. Et ça, c'est le drame de nos humanités, c'est qu'on crée une dichotomie, on crée une dissension entre ce qu'on vit à l'intérieur et ce qu'on vit à l'extérieur. Et alors, on arrive à rentrer dans un système qui fait que, à chaque fois que je vais tirer dans ma personnalité sur un geste qui n'est pas juste, que je vais engager mon corps dans un geste qui n'est pas celui que je vis dans mon cœur, eh bien, ça va avoir pour moi un fruit mortifère. Ça va mener à la mort intérieure. Ce qui se manifeste par des choses très précises, au niveau par exemple de l'addiction du sexe, plus je cherche le sexe, plus je vais le chercher, moins il y a de sens, plus je recherche que le plaisir, moins mon cœur est impliqué, plus j'ai soif, plus j'ai mal, plus je suis triste. Et ça porte un fruit de dépression. Il suffit de poser la question aux gens qui sortent des fêtes ou de partout ou de choses sexuellement assez déjantées. On a quelques filles qui ont fait des beaux-arts et je peux dire que de ce côté-là, ça y va. Et le matin, il y avait des jeunes de leur promo qui leur disait « J'ai pris 3 douches ce matin pour essayer de me laver tellement je me sens mal. » Si on écoute le cœur des jeunes qui vivent ça ou des adultes, on voit quel est le fruit. Ça, c'est pas la joie. La vraie joie, c'est autre chose. La vraie joie, c'est de chercher l'unité et la vérité de nos êtres. Et quand on arrive à poser un geste qui est juste et qui fait que notre sexualité s'accorde, notre corps dans son expression sexuelle, dans son expression de tendresse, s'accorde avec ce que nos cœurs vivent, alors au contraire, ça porte un fruit de jubilation. Et je pense que c'est important de comprendre quel est le regard de Dieu sur la sexualité. Parce que si on comprend ça, on comprend aussi l'enjeu qu'il y a dans ce point-là, qui est un endroit tellement névralgique. Parce que Dieu a voulu que l'homme et la femme vivent un tel amour, une telle communion, qu'ils aillent jusqu'à faire une seule chair. Une seule chair, ça veut dire un seul corps. Un seul corps, ça veut dire un seul être. Donc corps, âme, esprit unis à tel point qu'ils vont le célébrer dans leur amour et dans leur sexualité.
C'est pour ça qu'il faut bien, saisir. Thème, c'est amour, sexe et Dieu. Donc qu'est-ce qu'a dit le Fils de Dieu par rapport à cette question-là? Jésus lui-même a reconfirmé dans la discussion avec les apôtres et même avec les pharisiens, c'est-à-dire avec tous les hommes, que pour comprendre le mariage, pour comprendre la relation d'un homme et d'une femme, pour comprendre leur sexualité, il faut revenir aux origines et à la Genèse. Et il réinsiste fondamentalement sur les textes fondateurs de la Genèse. Et dans les textes fondateurs de la Genèse, Adam, quand il découvre Ève, exulte de joie. Avec cette expression, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc ça veut dire qu'il exprime bien au travers de ces mots une exultation de son cœur qui va jusqu'à dire « tu es ma chair, tu es mes os ». Donc c'est une expression qui veut dire « mais tu es mon être ». Et c'est pour ça que le texte de la Genèse vient après, c'est pour ça que l'homme et la femme ne feront qu'une seule chair. Donc ça montre bien que la sexualité est parfaitement inscrite dans le dessin des origines et qu'elle est absolument bénie par Dieu et que justement elle est l'expression du sentiment qui nous habite profondément de notre esprit, de notre cœur. Et qu'elle va donc au travers, comme nous sommes tendus l'un vers l'autre, ça va se, comme nous sommes des êtres incarnés et que la révélation chrétienne est une révélation incarnée et d'incarnation, ça va se célébrer et se signifier dans la sexualité. Et là, c'est pour cela que, comme le disait Maude, avant la chute dans la Genèse, Adam et Ève étaient nus l'un devant l'autre, ils n'avaient pas honte. Donc l'expérience de la nudité et du corps n'était absolument pas opaque par rapport à l'aspect spirituel, l'aspect intérieur, l'aspect du cœur. Tout ça était dans une profonde symbiose. Par contre, quand il y a expérience du péché, à ce moment-là, il y a fracture entre le cœur et le corps. Et effectivement, ils eurent honte l'un devant l'autre. Et à ce moment-là, ça va complètement dévier la relation à notre corps et à la relation sexuelle. Et c'est là où on va, où l'homme, je dirais, s'introduit dans une fausse relation, dans une fausse sexualité, qui est l'érotisme ou la pornographie, etc. Et toutes les défiances qu'on peut connaître, je ne vous fais pas de dessin, parce qu'on en est environné tous les jours. Donc vous voyez bien que c'est vrai que la question parfois est complexe. C'est que à la fois la sexualité est complètement inscrite dans le dessein de Dieu, mais effectivement, parce que nous sommes tous des êtres qui sommes, je dirais, qui expérimentons le péché, notre relation, notre sexualité, effectivement, la pervertit, est là comme déviée. Et effectivement, nous avons à travailler au travers de notre vie spirituelle et au niveau de notre vie chrétienne, à travailler à la conversion de cette relation, à travailler à cette conversion de notre sexualité et de notre corps. Et c'est tout un travail de combat spirituel.
On trouve d'ailleurs cette référence-là quand Jésus parle à ses apôtres de l'expérience du pur et de l'impur, où il dit « ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui est impur, c'est ce qui sort du cœur ». Autrement dit, pour purifier mon corps, il faut que je convertisse mon cœur. C'est par un travail intérieur que je vais apprendre à ajuster mon corps et que je vais faire de l'expression de ma tendresse et de mon affection et de mon amour une expression juste et qui va elle-même être porteuse de vie. Et on sait très bien que la sexualité se situe sur un enjeu qui est vital. C'est le lieu, effectivement, où on donne la vie, mais c'est aussi le lieu où on peut blesser l'autre à un point tellement profond que c'est dans nos juridictions occidentales, le seul crime qui ne tue pas, c'est le crime qu'on appelle le viol, qui revient à une mort personnelle parce qu'il y a agression sexuelle. Donc ça veut bien dire que même nos lois ont tenu compte du fait qu'une sexualité qui n'est pas juste blesse, et elle blesse tellement qu'elle peut donner quelque part la mort. Donc c'est très important de comprendre que si Dieu a voulu que sa sexualité soit l'endroit même où l'homme et la femme célèbrent leur communion, et en célébrant leur communion, ils rendent gloire à Dieu. C'est très important parce que c'est le lieu même qui leur est spécifique pour être une action de grâce pour Dieu. Chez les Juifs, par exemple, après toute fête liturgique, il fallait que le mari et la femme s'unissent comme action de grâce, comme prolongation de la fête qu'ils avaient célébré à l'église, au temple à l'époque. Voilà. Et de la même façon, dans la liturgie chrétienne, quand on bénit une maison, par exemple, on ne bénit que des pièces, il y a un seul meuble qu'on bénit, c'est le lit conjugal, parce que c'est l'autel du couple. C'est là où ils vont célébrer leur amour, c'est là où ils vont se donner l'un à l'autre. Donc il y a là une vision extraordinairement belle de la sexualité, mais qui implique un travail de conversion. Parce que la sexualité n'est pas un lieu où, comme on dirait, on lâche les gaz. La sexualité est un lieu de communion. Donc si c'est un lieu de communion, ça veut dire que je vais apprendre à respecter le langage du corps de l'autre et que moi, je vais apprendre le langage du corps de l'autre pour pouvoir rentrer dans un dialogue qui va nous donner vie tous les deux et nous faire grandir dans l'amour, nous faire croître dans l'amour. Voilà pourquoi il est si important de prendre du temps pour s'engager dans une relation sexuelle. Et combien de fois on a parlé, échangé, témoigné auprès de jeunes de cette sagesse de l'Église qui consiste à dire qu'on ne prend pas le corps de l'autre avant que Dieu nous l'ait donné, parce qu'on est dans une autre dimension. Il ne s'agit pas d'être bridé dans l'amour qu'on porte à l'autre. Bien sûr que quand on s'aime, on a envie de se donner entièrement, et notamment dans la relation sexuelle. Mais si le Seigneur nous demande d'attendre, c'est justement parce qu'il faut prendre ce temps de la purification pour que nos corps soient prêts à célébrer l'amour que nous recevons de Dieu. Parce que nous prenons conscience que tout seul, on n'arrivera pas à faire ce travail de conversion. C'est trop dur, on est trop mal foutu, on est trop handicapé, et ça sort dans tous les sens. Et c'est ce qu'on exprimait ce matin, on est tous blessés de l'amour, blessés par une blessure, je dirais, fondamentale, qui fait que justement l'amour qu'on veut donner, on le donne mal et on blesse l'autre alors qu'on voudrait l'aimer. Et lui, il veut nous aimer et il fait des catastrophes. Donc voilà le drame de la nature humaine. Et la sexualité est au cœur de cette aventure que le Seigneur nous propose de vivre pour la joie, pour le bonheur, pour une vie, si je puis dire, dilatée dans une relation qui est belle.
Ce qui est important de saisir, Et Jean-Paul II, pour les plus jeunes, vous ne l'avez pas connu, mais ça a été parmi les 215 ou 225 papes de l'histoire de l'Église. C'est le pape qui a fait la plus grande catéchèse de toute l'histoire de l'Église. Et cette plus grande catéchèse de toute l'histoire de l'Église, elle a un thème, c'est la sexualité et le mariage. Et ça vient en notre temps. Et donc il faut bien saisir qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint, dans son mystère, est en train de donner profondément à l'Église une intelligence, une compréhension sur la sexualité, comme peut-être elle ne l'a jamais eue. Et donc, nous sommes dans un monde justement qui est en train de vivre des expériences sexuelles complètement délirantes et de plus en plus délirantes. Ça a toujours plus ou moins existé, hein, comme on le verra par ailleurs. Mais là, c'est vrai que là, c'est quand même pas mal. Mystérieusement, les couples et les familles sont en train d'exploser à qui mieux, etc., etc. Et mystérieusement, comme l'Esprit Saint est en train de donner à son Église une plus grande intelligence du mystère du mariage et du mystère et du sens de la sexualité. Et justement, alors qu'il y a cette image d'Épinal qui, je dirais, oppose sexualité et vie de foi, eh ben, elle les rassemble. Et le cœur du message de l'Église et de la révélation est de dire « Mais le Seigneur veut profondément une grande bénédiction pour vous dans votre sexualité. » Et il veut non seulement une grande bénédiction, mais il veut que votre expérience sexuelle entre homme et femme, en tant que mari et femme, elle soit crescendo. Dans l'intensité, par ce travail de conversion et de purification. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui est dit, les sexologues sont extrêmement alarmés, et nombre de médecins sont alarmés de la manière dont la sexualité se développe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sexologues disent, c'est techniquement, c'est le championnat, mais au niveau de la relation conjugale et sexuelle, ça devient de plus en plus minable. Et qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans un monde dans lequel les conjoints, les hommes et les femmes, sont insatisfaits de leur relation sexuelle. Comme peut-être rarement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de désir. Parce que finalement, on s'est tellement libéré que finalement, ça devient quasiment hygiénique. Et que finalement, on est mieux. Il y a eu des enquêtes comme ça. On est passé un beau repas que de faire l'amour avec sa femme ou avec son homme. Bon. Donc à un moment, ça devient une grande banalisation. Et donc, aujourd'hui, la sexualité est de plus en plus en panne. Je ne vous donne pas un discours de catho ou de chrétien, etc. Simplement, un constat des sciences humaines qui dit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de problèmes au niveau de la sexualité. Il y a de plus en plus de couples, effectivement, qui ne font plus l'amour. Parce qu'ils n'en sentent plus le désir, parce qu'ils n'en sentent plus le sens. Et qu'aujourd'hui, la sexualité, elle est de plus en plus dans un problème de sens. Ça sert à quoi tout ça ? Est-ce que c'est simplement du sport en chambre ? Est-ce que c'est simplement un plaisir gastronomique au niveau de la sexualité ? Est-ce que c'est simplement ça ? Et le débat est aujourd'hui à ce niveau-là. Et c'est là où nous, en tant que chrétiens, nous avons à revenir au sens de la sexualité. Et que Jean-Paul II a notamment quelque chose de très très fort quand il va parler de la sexualité comme de la liturgie propre des époux. Jean-Paul II, en reprenant tout le détail de le sens de la sexualité humaine, l'homme et la femme, quand ils s'aiment et quand ils s'unissent, selon le dessein de Dieu, ils célèbrent le mystère même de Dieu. Et donc c'est pour ça que Jean-Paul II va parler de la sexualité comme de la célébration, liturgie propre des époux, comme le prêtre a sa liturgie propre qui est l'Eucharistie. Comme vous avez les moines, dont la liturgie propre c'est l'office des heures, 7 fois par jour. Et bien, la liturgie propre des époux, c'est quand même un sens très très fort, c'est la sexualité. Ah, pas bien sûr de s'aimer comme des bêtes, etc., etc. Dans le sens, véritablement, du sens tel que dans le dessein du Seigneur, dans le dessein de Dieu. Et que là, véritablement, c'est pour ça que la sexualité peut être une expérience dans un couple qui peut être crescendo, parce que justement, quand le couple et les conjoints travaillent à leur conversion, à la conversion de leur passion, alors effectivement, la sexualité au fur et à mesure peut être de plus en plus une expérience intense, riche, et qui s'enrichit au fur et à mesure. Et c'est pour ça que plus on travaille à la purification de notre sexualité, plus on va être dans une intensité de notre relation. Qu'est-ce que nous dit le monde ? Le monde dit, quand t'as 20 ans, surtout tu t'éclates, et au niveau de la sexualité, tu essaies de faire tout ce que tu peux, que de toute façon, plus tu vas vieillir, moins ça va être bon. Ça, c'est la loi du monde. C'est la loi des médias. Change de partenaire, trouve des meilleures positions, etc. etc. Voilà, c'est la course en avant. Or, cette course en avant, tu ne peux pas en être satisfait. Et plus tu vas courir derrière, et plus tu vas courir derrière l'expérience, moins tu vas en être satisfait. Alors que justement, la voie chrétienne nous dit, il faut travailler à la conversion de notre sexualité, à la conversion de nos passions, à la conversion de notre désir, non pas à l'éteinction de notre désir.
Extinction
de notre désir. Il est important que je cultive le désir pour mon épouse d'année en année, de grandir dans ce désir. Voilà. Et c'est pour cela que c'est une expérience de bénédiction de voir que le travail de conversion, qui ne se fait pas d'un claquement de doigts, eh bien, travaillant notre conversion, effectivement, on est de plus en plus dans la qualité de la relation et donc dans l'émotion de la relation. Pour vous prendre un parallèle, pour ceux qui peuvent le saisir, la messe et l'Eucharistie. Bah, excusez-moi, mais effectivement, on l'a vécu une fois, deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois, mais eh bien, c'est ceux qui rentrent de plus en plus dans la foi dans le Christ Jésus, dans la foi dans le Dieu vivant. Plus en plus, on rentre dans cette foi que Dieu est vivant et présent et se donne à nous, que l'Eucharistie, même la pluie avec trois petites mamies, un vieux curé, machin, un truc, ça peut devenir d'une intensité exceptionnelle. Parce que tout est dans l'intensité spirituelle de ce qui va se vivre. Donc ça veut dire que dans la relation sexuelle, là aussi ce qui est important, c'est tout le sens qu'on va y donner. Et le sens, on va d'autant plus le saisir qu'on va travailler à la conversion de nos passions. Et à ce moment-là, c'est pour ça que la relation sexuelle, même après 10, 20, 30 ans, 40 ans de mariage, peut être encore plus émouvante et encore plus nourrissante pour le couple que celle de la première relation de la nuit de noces. Ça, jamais le monde va vous le dire. Le monde va vous dire le contraire. Et en vous disant le contraire, il va vous mentir. Parce qu'il va vous faire croire que plus tu vas t'éclater dans le sexe, plus tu vas dilater ton cœur.
Ouf, c'est renversant comme
panier. C'est renversant.
Justement, on va pouvoir s'appuyer sur l'évangile de Cana, que peut-être vous connaissez. L'évangile de Cana, c'est l'opposition entre la loi du monde et la loi du bonheur. Donc ce qu'on pourrait appeler la loi du plaisir. La loi du plaisir, c'est ce qui se passe au début des noces. Quand quelqu'un se marie aujourd'hui, on lui dit, écoute, profites-en bien. Quand tu auras fait le tour de ton conjoint dans tous les sens et tout, tu vas commencer à en avoir marre, tu vas te lasser. Donc, c'est l'évangile de Cana. On commence le repas de noces avec du vin, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de vin. C'est de la piquette, ou alors il n'y a même plus que de la flotte. Donc, ça veut dire que le vin, qui est le symbole de l'amour dans la Bible, l'amour vient à tarir. Donc l'amour, je dirais amoureux du premier temps où il y a le cœur qui bat tout seul et on a les mains moites et on dort pas de la nuit et voilà, on pense qu'à l'autre, ça c'est un amour qui n'a qu'un temps. C'est l'amour des débuts, mais c'est pas le meilleur vin. Avec Jésus, tout est changé. Il dit, si jamais vous remplissez d'eau vos jarres, si jamais vous passez par cette purification, alors je peux transformer votre eau en un vin meilleur, plus capiteux, que jamais vous n'auriez pu imaginer. Et c'est ce qui se passe quand Jésus transforme l'eau en vin. On amène ça aux noces, et le responsable de la noce dit, mais t'es complètement fou. Quand les gens sont complètement sous, on met de la piquette, personne ne se rend compte de rien. Et toi, tu mets le meilleur vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais notre vie conjugale s'appuie sur le Christ, s'appuie sur notre conversion personnelle, que nous vivons dans l'Esprit Saint, que nous laissons la place au Christ d'habiter nos cœurs et nos corps pour nous aider à faire ce travail d'ajustement que nous avons à vivre, alors nous découvrons que plus nous avançons dans l'amour, plus il est grand, plus il est beau, plus il est dense. Et quand on voit un jeune couple qui se marie, il vous dit qu'il a le cœur qui va exploser, qu'il se demande comment il peut aimer plus. Eh bien, il n'a rien vu. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il n'en a encore qu'une toute petite idée. L'amour est bien plus grand, bien plus fort, bien plus intense. Quand on arrive à l'orienter comme ça et à croître dans cette conversion personnelle qui va purifier, pas une conversion pour anéantir.
C'est bien, elle parle bien. Hein.
humaine.
Non, mais c'est...
Tu veux vraiment dire ça?
Non, je t'écoutais avec attention et donc j'ai pas suivi le film. Non, mais c'est j'étais non, je t'écoutais avec attention parce que j'avais, je t'écoutais, j'ai vraiment le, je pense beaucoup aux quelques jeunes qui sont parmi nous, qui sont forcément très en éveil sur toutes ces questions-là et très à l'écoute par rapport à toutes ces questions-là. En t'écoutant, j'avais une conscience comme rarement j'ai eu de l'aspect du mensonge du monde. Le mensonge du monde qui est vraiment, quand vous allez vous marier, quand vous allez, indépendamment du mariage, quand vous allez vraiment vouloir nouer une relation solide avec un garçon, avec une fille, allez, pour la vie, pour construire quelque chose, une belle famille, etc. On est dans un contexte qui vous dit, profites-en bien au début, parce que ça ne fait que des crescendo après. Et c'est vrai, humainement, si on ne fait pas attention, c'est vrai. C'est l'expérience du monde, c'est ce qu'on voit autour de nous. On en parlait un peu plus ce matin. 9 couples sur 10 sérieux qui se mettent ensemble pour construire un projet de vie de couple et de famille, 9 couples sur 10 ne finiront pas leur vie ensemble. Ça veut dire que tôt ou tard, il y aura un échec conjugal. Et si jamais c'est un échec, c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas grave, on va trouver un autre. Non, c'est dramatique. Pour 90% des couples qui se séparent, c'est dramatique. C'est l'échec de leur vie. Et je pense qu'on est de plus en plus conscients, parce que de plus en plus autour de nous, nous voyons des couples qui se sont déchirés et qui sont malheureux comme tout. Très proches de nous, un couple, mais qui s'aiment énormément, mais ils se font tellement mal qu'ils vont se séparer. Et leur chemin de croix dure depuis 25 ans. C'est terrible. Et ils ont essayé de s'aimer, hein. Ils essaient de vivre ensemble, de construire ensemble, mais à un moment ça peut pas parce que le péché est là, parce que nos humanités sont là, parce que nos blessures sont là, etc. etc. Et donc, avec la meilleure bonne volonté du monde, on peut être acculé à vivre une vie conjugale, on n'y arrive pas. Et c'est dramatique pour nous, mais aussi dramatique pour nos enfants. Et on a aussi la responsabilité de nos enfants, parce que papa et maman qui se séparent, et ben c'est pas leur faire un cadeau, pour pas dire plus. Et donc, nous aspirons, quand nous commençons une vie de couple, nous aspirons à ce que notre couple s'aime, et s'aime en croissance. Et que ça puisse durer 30 ans, 40 ans, qu'on accompagne nos enfants et qu'on voit nos petits-enfants ensemble. C'est notre désir à tous. Or, c'est de moins en moins la situation du monde. Et c'est pas faute de bonne volonté. Et donc, c'est de plus réussir son couple, c'est la chose la plus difficile aujourd'hui. Or, c'est ce à quoi nous aspirons. Et on va se dire, oh ouais, mais c'est les autres et moi, je réussirai. Pour beaucoup de couples aujourd'hui, c'est la roulette russe. Et globalement, on s'occupe pas mal de préparation au mariage face sur Avignon. Nombre de couples disent, bon, de toute façon, on ne sait pas le temps que ça durera, l'air de dire, de toute façon, tôt ou tard, on séparera, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Moi, je n'ai pas envie de vous confirmer dans cette loi de la roulette russe. Tôt ou tard, la balle partira. Tôt ou tard, votre couple, il sautera. 3 mois, 3 ans, 30 ans. C'est effectivement une loi humaine. C'est effectivement une loi humaine. Mais le Christ, c'est toute la discussion que Jésus a avec les apôtres en Matthieu 19. Où les apôtres, devant cette loi de la fidélité, etc., disaient à Jésus, mais tu es fou, c'est pas possible. Tu es fou, mon ami. C'est quasiment ça comme ça qu'il faut qu'ils lui disent. Mais c'est vaut mieux pas se marier.
Tu es fada.
Et donc, cassos, surtout pas se marier, parce que de toute façon, c'est tôt ou tard l'échec. Et Jésus, entendez bien ça. Jésus ne les conteste pas. Donc, vous voyez, la situation conjugale difficile, c'est pas que au début du 21e siècle.
Il y a 2000 ans,
c'était pareil. Jésus confirme qu'effectivement, vivre le dessein de Dieu toute sa vie, c'est pas réalisable. C'est le dessein de Dieu, mais avec le péché, avec les conneries qu'on a fait, avec le péché originel qui nous plombe complètement, tôt ou tard, on part au fond de la piscine. Et on se noie. Et donc Jésus ne conteste pas. Il dit, bah oui, c'est pas réalisable. Sauf si jamais ça vous est donné. Donc, allez. Jeunes, les grands, au-dessus de 30 ans, vous écoutez pas. Hein. Soyez égoïstes pour vous. Dieu, à la rigueur, vous en fichez. C'est pas le problème. Simplement pour construire votre bonheur. Simplement pour construire votre bonheur. Simplement pour construire votre relation conjugale que vous allez construire demain. Accueillez Jésus dans votre vie. Parce qu'il est le don, il est le cadeau, il est le cadeau pour que vous réalisiez les desseins auxquels vous ne rêvez même pas. Parce que vous n'osez pas rêver ça. Jésus peut vous conduire à une relation conjugale que vous n'osez même pas rêver. C'est la promesse, c'est tout le sens que Maud, sur lequel Maud a insisté par rapport à Cana. Le bon vin des noces qui va crescendo, vous ne le soupçonnez pas. C'est seul Dieu qui peut donner ça. Vous voulez quoi? Vous voulez une relation de pacotille? Vous voulez simplement vous éclater? Et tôt ou tard, ça sera déprimant. Et ça sera de plus en plus comme cela. Ou au contraire, vous voulez aller comme Thérèse. On a succédé à Marie-Michel et à ses sœurs. Par rapport à Thérèse, je vais de victoire en victoire. Je veux tout. Le Seigneur peut nous donner et nous conduire sur des chemins. Mais je n'imaginais pas. Petit témoignage. Nous avons fêté, il y a maintenant 17 ans, nos 10 ans de mariage. Et alors, il y a 17 ans, et 10 ans de mariage, et alors j'étais là, il y avait plein de copains, etc. Et pendant toute la journée, j'étais là à me dire, mais c'est pas vrai, mais j'aime Maud, mais je l'aime encore plus qu'il y a 10 ans. Je pensais que le jour de mon mariage, j'aurais été au top. Et j'ai dit, non seulement c'était pas le top, mais c'est beaucoup plus. J'ai dit, mais c'est dingue cette histoire. T'as vu, on est en crescendo. Et j'étais, comme si jamais j'avais une prise de conscience du chemin parcouru pendant 10 ans. Et de voir.
On a un avantage par rapport aux autres générations, c'est que nous, quand on se marie, on en prend pour 70 ans. Voir qu'avant.
Enfin, nous, on en prend pour 50 ou 60, mais eux qui ont moins de 30 ans.
L'espérance de vie étant à 100 ans, ou je sais pas quoi, hein, vous vous mariez vers 25 ans, il y en a une certaine durée à tenir. Donc ça veut dire que vous arriverez à un vin meilleur, encore meilleur que les générations d'avant, puisque eux, ils ont eu que 20 ou 30 ans de vie conjugale. Donc chouette, on double la mise.
Et donc finalement, le Seigneur, au niveau de ça. Là, on parle au niveau de la relation conjugale. Mais on vous parle au niveau de la sexualité. Je me souviens toujours de notre fille aînée qui a accueilli Jésus au cœur de sa vie à 17-18 ans et qui a vraiment cheminé avec le Seigneur et qui débarque en école de commerce, loin de la maison. Et la première fois qu'elle revient à la maison, elle nous dit « Merci les parents ». Alors je dis « Merci les parents ».
C'est rare dans la bouche d'une ado.
Donc la finance, enfin, ado de 20 ans, c'est une grosse ado, une grande ado.
Enfin, bon. Voilà. Merci aux parents.
Merci aux parents. Je dis, voilà, c'est quoi l'école est bien. Merci pour la liberté. Alors je dis, toi, tu veux t'expliquer un peu plus. Elle dit, merci pour la liberté. Parce que rentrer en école de commerce, c'est la fête éclatée tous les soirs, etc., etc. Merci parce que vous m'avez conduit à la liberté. Alors, je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que, à la fois, j'ai une éducation humaine, mais j'ai eu aussi une éducation qui m'a conduit au Christ. Et qui m'a conduit à accueillir le Christ au cœur de ma vie. Et c'est là ma liberté. Et donc, c'est l'expérience de la rencontre de Christ au cœur de sa vie qui nous libère de nos passions. En tout cas, qui nous conduit sur un chemin de libération de nos passions. Et qui nous conduit vers une expérience de l'amour, et donc de la vie conjugale, et donc de la sexualité. Et donc de la sexualité, parce qu'elle travaille à la purification de nos passions. Et nous sommes prisonniers de nos passions. Et donc si nous travaillons à la libération de nos passions, et bien nous rentrons dans la liberté. Et si on rentre dans la liberté, on rentre dans la dilatation du cœur. Et moi je ne veux pas une vie... Nous ne voulons pas une vie pour nous, pour nos enfants et pour chacun de vous. On ne veut pas une vie à 3 ou à 5 euros ou à 10 euros. Nous voulons une vie qui soit immense, qui soit dilatante. On reprenait ce matin, quand Adam voit Ève, il ne dit pas ouais, elle est pas mal celle-là. Elle est bien roulée. Il dit pas, ouais, c'est une fille intéressante. C'est vraiment une fille intéressante. Elle a les neurones bien connectés. Hein. Ou alors, voilà, ah bon, vous voyez tout ce, que je peux, tout ce qu'on peut dire. C'est pas simplement qu'il est satisfait d'elle. Finalement, au final, c'est un bon bilan, quoi. Je prends. Il a dit, il a exulté de joie. Et nous sommes tous faits pour l'exultation. Si nous ne sommes pas dans l'exultation, nous ne sommes pas dans le dessein de Dieu. Et chacun de vous jeunes, vous êtes faits pour l'exultation. Si vous n'êtes pas dans l'exultation, c'est qu'il y a du chemin encore à faire. Mais on est fait pour ça. Le Seigneur nous a créés pour exulter. Et donc, on est fait pour cela. Et donc, il faut se mettre en ordre de bataille pour cela. Et effectivement, Jésus nous dit, effectivement, le chemin est escarpé. Il faut se battre. Ce n'est pas le chemin de la facilité. Mais moi, je veux une relation intense. Je ne veux pas finir ma vie avec Bobonne à côté de moi, dont je m'emmerde comme un rat-mort. Je veux vraiment que notre relation, elle soit crescendo.
Et moi, je ne veux pas finir ma vie avec un vieux grand-père bougon et rabougri.
Voilà. Bon, il y a du boulot. Bon, ben ça, on pourra faire avec. Hein. On pourra faire avec. Je vais essayer de travailler un peu plus de sport cette année. Bon. Mais ce que nous sommes faits pour que notre relation grandisse, s'intensifie. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Donc, et c'est un combat qui commence plus on démarre jeune, plus on est orienté vers cela. Tout est possible. La miséricorde de Dieu est grande. On a vu des couples vraiment, mais complètement revivre, même des couples qui étaient séparés, après 30 ans de mariage, mais revivre, mais comme deux amoureux. Dans cette redécouverte et cette découverte de l'amour de Jésus, qui a été comme la source de leur amour. Et ils se sont retrouvés, mais ils disent, mais jamais on s'est aimé comme ça. Pendant un grand temps, bien, surtout qu'ils s'étaient divorcés. Ils se sont remis, voilà. Donc il y a des situations où c'est plus possible, etc., etc. Mais pour vous montrer, pour illustrer combien le Seigneur peut faire vraiment des merveilles profondes dans nos vies. Bon, on a dit des choses qu'on n'avait pas du tout prévu de dire. Et il y a plein de choses qui étaient écrites, qui n'ont pas été dites. Mais merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà. Dieu est bon, gloire à Dieu. Amen.
Amen.
Soyez bénis. On applaudit le Seigneur. Bon, on essaie de respecter à peu près l'horaire à 4 minutes près.